Vous n'allez pas encore vos oreilles.
Chez Poltron et Sofa, ce sont les super soldes en or, avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltron et Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Europe 1, il est 15h. Il est 15h, c'est l'heure du flash avec vous. Émilie Dez, bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. L'Europe dispose d'outils très puissants et elle doit les utiliser quand elle n'est pas respectée, assure Emmanuel Macron. Le président français a répondu depuis le Forum économique mondial de Davos aux menaces de taxes douanières de Donald Trump. Le président américain envisage une surtaxe de 200% sur les vins et les champagnes français après le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son conseil de paix, des droits de douane inacceptables pour le chef de l'État qui dit préférer le respect au brut. Le président du RN, Jordan Bardella, appelle à mettre en œuvre sans délai le mécanisme anti-coercition contre les États-Unis, un outil qui permet entre autres de limiter l'accès des entreprises américaines au marché public en Europe ou d'interdire certains de leurs investissements. Sébastien Lecornu engagera cet après-midi la responsabilité du gouvernement pour faire passer le budget 2026. Le Premier ministre utilisera le 49.3 une première fois cet après-midi sur la partie recettes, puis dans quelques jours sur la partie dépenses. Le RN et LFI ont déposé des motions de censure. Le PS ne devrait pas les voter, convaincu qu'il a obtenu sur le fond des victoires substantielles. Les débats sur la fin de vie reprennent aujourd'hui au Sénat. Deux textes sont examinés en parallèle. L'un sur le développement des soins palliatifs, l'autre sur le suicide assisté. Le texte a été remanié en commission. Il prévoit des conditions d'accès plus strictes. Un vote est prévu le 28 janvier. Les agriculteurs mobilisés aujourd'hui à Strasbourg, jusqu'à 1000 tracteurs sont entrés dans la capitale alsacienne. Ils veulent mettre la pression sur les députés européens pour retarder l'entrée en vigueur de l'accord du Mercosur. Les députés appelés à s'exprimer demain sur une éventuelle saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Le géant français de l'informatique Capgemini envisage de supprimer 2400 postes via des reclassements et des départs volontaires. Le groupe dit faire face à un ralentissement de son activité. La piste du sabotage est écartée après la collision entre deux trains qui a fait au moins 41 morts en Espagne. Le Premier ministre a promis une transparence absolue sur les causes de la catastrophe. L'Espagne, qui observe 3 jours de deuil national, la famille royale espagnole s'est rendue à la mi-journée sur les lieux de l'accident. Les propriétaires du bar incendié de Crans-Montana en Suisse sont de nouveau auditionnés, accusés notamment d'homicide par négligence. Ils doivent être entendus pendant 2 jours par les enquêteurs. L'incendie de leur bar la nuit du Nouvel An a fait 40 morts et 116 blessés. Et puis du football avec la Ligue des Champions. Le PSG affronte le Sporting Portugal ce soir. Paris, qui en cas de victoire se dirigerait tout droit vers une qualification en 8e de finale. À suivre aussi Real Madrid-Monaco. Coup d'envoi de ces deux matchs à 21h.
Europe 1.
Il est 15h02 sur Europe 1. Et si on en parlait, c'est maintenant.
Merci Émilie Dez. On vous retrouve dans une demi-heure à 15h30. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Marie-Estelle Dupont,
15h-16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Ici, on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle.
Bonjour Romain.
Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler, je vous rappelle le numéro de téléphone du standard de l'émission 01 80 20 39 21, c'est le numéro de téléphone d'Europe 1. C'est un appel non surtaxé. Aujourd'hui, on va parler des agriculteurs. On va parler du monde rural, un monde souvent oublié et souvent mal aimé, Marie-Estelle Dupont.
Oui, absolument, Romain. Dessine-moi ton arbre généalogique. Je te dirai où est l'agriculteur, pourrait-on dire à des enfants de primaire. Parce que nous en avons tous dans nos lignées familiales. On est devenu des cols blancs, peut-être. Il n'empêche que l'on soit normand, bourguignon ou alsacien, des fermiers, des vignerons, des meuniers, il y en a récemment ou moins récemment dans la famille. Alors, quand on dit agriculteur, à quoi pense-t-on ? D'abord, à un travail physique, quasiment 7 jours sur 7, donc au courage, à l'abnégation, on ne laisse pas ses bêtes pour partir en vacances, mais aussi à la loyauté et à une forme de solitude. À l'heure où, au nom de l'écologie, on plante des éoliennes qui détruisent la pêche artisanale tous azimuts, la mort programmée de ceux qui nous permettent de manger local et de saison ne semble pas empêcher de dormir les bienfaiteurs de l'humanité que sont nos dirigeants. Pourtant, quand je pense aux agriculteurs, je pense au suicide. Je pense aux normes bureaucratiques absurdes et chronophages qui les entravent dans leur pratique alors qu'ils sont les garants de l'intelligence du vivant, de la terre, des animaux, des cycles de la vie. Leur bonne volonté, leur sens du devoir, leur abnégation, leur loyauté à la terre transmise ne suffisent pas toujours à endiguer le découragement, la fatigue et l'angoisse de vivre avec 400 euros. Je pense à l'amour de ce qu'ils fabriquent, aux tomates qui ont du goût, à la patience, à la précision, au savoir-faire, à l'intransigeance aussi, aux jardiniers, dans la pièce de théâtre Electre. Leur corps reflète leur loyauté. La mondialisation dont nous avons tous rêvé pour sa capacité à satisfaire instantanément nos petites envies du moment leur inflige, chers auditeurs d'Europe 1, une peine douloureuse. De proche en proche, de paradoxes en normes inégalement appliquées, de grandes déclarations en concurrence déloyale, les taux se resserrent et on les dépouille peu à peu du sens même de leur métier. On leur dit qu'on les aime, mais le poulet en batterie et les fruits insipides et congelés font de nos caddies un remake triste du célèbre film « La loue la cuisse ». Il serait non seulement lâche de détourner le regard, mais également idiot. C'est sur cette ambivalence collective, ou cette résignation peut-être, que j'aimerais revenir aujourd'hui pour comprendre ce qu'elle dit d'une certaine dévitalisation de la France. Et pour en parler, j'ai la joie de recevoir Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, une marque originale, née en pleine crise du lait il y a 10 ans. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Chaban.
Bonjour, bonjour.
Merci Marie-Estelle Dupont. On va parler des agriculteurs, donc hein, pendant une heure, pendant toute l'émission. Je rappelle le numéro de téléphone hein, de l'émission si vous voulez témoigner, parler de votre métier, si vous êtes agriculteur, si vous êtes de la famille agriculteur, si vous êtes fils ou fille d'agriculteur. 01 80 20 39 21. Vous pouvez faire ce numéro, hein, taper ce numéro et puis vous passerez à l'antenne. Marie-Estelle, le rapport des Français aux agriculteurs, on pourrait le résumer ainsi, c'est « je t'aime, moi non plus ».
Alors, je pense qu'il y a à la fois de l'ambivalence, mais il y a aussi, surtout peut-être, des Français qui sont tellement pris dans leurs propres difficultés du quotidien qu'ils n'ont pas vu peu à peu le glissement depuis quelques décennies qui a un peu confisqué l'agriculture aux agriculteurs et finalement, pour beaucoup de domaines, pas seulement l'agriculture, il y a eu l'énergie aussi dans notre pays. On a joué à saute-mouton avec la démocratie en laissant des entités supranationales comme Bruxelles appliquer des décisions qui ne correspondaient pas du tout aux intérêts et à la réalité du terrain. Mais je pense aussi qu'il y a, à titre individuel, peut-être chez certains d'entre nous parfois, ou à certaines périodes de notre vie, une forme d'incohérence ou d'ambivalence. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est d'abord ce que je mange. Et donc la première manière d'aider l'agriculteur ou de le reconnaître dans sa fonction vitale, parce que l'agriculteur est à la collectivité un peu ce que la mère est à la famille, c'est qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Si je mange en conscience pour ma santé et celle de mes proches, en réalité, je soutiens l'agriculteur parce que je sors le poulet en batterie, je sors la consommation de masse, je sors la nourriture qui finalement coûte cher et qui n'apporte rien en termes de nutriments, et je privilégie le local et le de saison, dont on fait croire qu'il coûte beaucoup plus cher, mais je pense que Nicolas Chaban est la meilleure preuve que c'est pas forcément le cas. Et donc, je crois que le premier soutien qu'on peut leur apporter, c'est effectivement de nous alimenter dans l'intérêt de notre propre santé. Et ce qui est un peu dommage, c'est que dès que on critique une directive européenne, on passe soit pour un zadiste, soit pour quelqu'un d'extrême droite, soit pour quelqu'un d'un peu débile qui parle de souveraineté et c'est un gros mot. Et en fait, c'est un peu agaçant parce que la réalité de notre santé, elle est aussi dans cette terre qu'on respecte. Alors pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne vous connaîtraient pas, Nicolas, je rappelle que vous avez créé C'est qui le patron en 2016. À l'époque, c'était la crise laitière en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce projet de coopérative ?
Alors, un constat très simple qui résonne vraiment encore plus aujourd'hui. À l'époque, en 2016, on s'occupait des gueules cassées à l'époque, les fruits et légumes moches. Le New York Times a fait un article sur la démarche et l'ONU nous avait demandé de présenter cette démarche. Un conseiller du ministère m'appelle en me disant « voilà, il faut préparer cette présentation ». Mais ce même conseiller me dit à la fin « vous n'auriez pas, côté consommateur, on était déjà un groupe de consommateurs, une idée pour aider les producteurs, de lait notamment, parce qu'ils sont en train de disparaître en France. Il faut redonner des chiffres à ce stade de l'émission. Il y avait 1 500 000 producteurs en 1970, il en reste 395 000 exploitations. On en perd 27 par jour, 200 par semaine, Et dans 5 ans, l'INSEE dit, ils vont partir à la retraite pour la moitié. Qui va nous nourrir ? L'enjeu, il est double. Il est évidemment
le nombre de vaches baisse ou le nombre d'exploitations ? C'est-à-dire que les exploitations grossissent ?
Le nombre d'exploitations, les exploitations grossissent, mais dans les fruits et légumes, c'est une perte sèche. Des importations. Et dans le contexte géopolitique, c'est quand même compliqué d'imaginer que c'est un pari très durable, d'imaginer qu'on va parier sur des bateaux qui vont serpenter entre les conflits pour venir jusqu'à nous. Mais pour répondre à la question... votre question, Marie-Estelle. Nous, on s'est retrouvés avec un constat simple. On a eu des producteurs de lait au téléphone. C'est le cas encore aujourd'hui pour trop d'entre eux. Ils perdaient 120 euros par jour, chaque jour, du lundi au dimanche. Voilà ce que c'est la vie d'un producteur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je fais exprès de dégrainer chaque jour parce que le vendredi, c'est pas le week-end. Deux traites par jour. En tournant le bouton de la machine à traire, me disait Martial Darbon dans l'Ain, on perdait 120 euros par jour. Quelle injustice. Des gens qui nous nourrissent tous les jours, qui n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Voilà comment est née cette aventure de consommateur, presque de façon un peu émotionnelle et spontanée. Et l'espoir qu'il y a, c'est que cette brique de lait qui est là dans le studio, portée par cette bienveillance, ce bon sens peut-être un peu des consommateurs, c'est la brique de lait la plus vendue de France. Donc elle a finalement prouvé qu'il y avait un autre chemin. Si on est sûr que les centimes vont bien aux producteurs, on fait de grands succès et il faut continuer à acheter français, effectivement.
Et donc, vous soutenez 2500 familles de producteurs et de productrices à travers la France avec vos produits qui, finalement, sont tout bénef pour le consommateur et tout bénef pour le producteur.
Voilà, c'est 3000 familles maintenant, puisque ça augmente. Mais en plus, indirectement, je vais essayer de ne pas trop vous donner de chiffres pour les chiffres. C'est pour le symbole et l'espoir qu'il y a derrière. Notre petite aventure spontanée de consommateurs en COP aide ces familles. Mais on découvre dans des témoignages de producteurs qui ne sont pas ces qu'ils patrons, que ça les aide aussi. Parce que quand ils se retrouvent en face du distributeur et que le distributeur leur dit, comme depuis des années, on ne peut pas vous l'acheter à ce prix-là parce qu'on ne pourra pas le vendre. Ils répondent, cette brique de lait, c'est la plus rémunératrice pour les producteurs en France et elle est la plus vendue. Donc voilà comment on a créé une équation qui attire un peu l'histoire par le haut. Et en plus de ça, après j'arrêterai avec les chiffres, mais je veux interpeller aussi le monde économique là-dessus, qui dit par défaut, rien n'est possible, la seule boussole c'est le premier prix, c'est pas vrai. Le monde économique a créé des marques depuis 10 ans, Danone, Nestlé, tous les grands groupes. Est-ce que c'est la marque la plus discount, qui est la marque la plus vendue parmi les nouvelles marques ? Non, vous l'avez devant vous, c'est qui le patron ? Cette marque solidaire, elle est la plus vendue depuis 10 ans en France, parce que elle n'est pas discount, mais parce qu'elle est solidaire. Il faut qu'on se réveille. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, Marie-Estelle, au début. C'est pas tellement nous, les consommateurs, qui sommes tellement à remettre en question. Quand ils bloquent les routes, les producteurs, 90% d'entre nous sont encore en soutien. Mmh. On sait très bien qu'ils font pas ça pour avoir une semaine ou un mois de congé en plus. Ils veulent juste arriver à vivre de leur métier. Seulement, il faut que tout ce système global, un, mette des produits solidaires en rayon. Il n'y en a pas beaucoup. Si je vous demande, au-delà de ces qu'il patron, le nombre de marques qui aident les producteurs, il n'y en a pas assez. Il y a Quanta Vélote, il y a Fair France, enfin, j'en cite quelques-unes. Donc il faut que le système, sans faire de discussion de bistrot, mais il faut qu'on passe un peu par là, quoi. Le côté bureaucratique qui consiste à réfléchir de façon très hors sol à des solutions, alors que dans la vraie vie, elles existent. Hein, la marque nouvelle la plus vendue de France. On dit au ministère, pourquoi vous ne le généralisez pas ? Parce que l'expert a un petit biais particulier, c'est que si la solution vient du bon sens des gens dans la rue et de la vraie vie, ça remet en question sa position d'expert qui doit trouver une solution. Donc voilà comment on est dans une aberration, une absurdité, et on pousse, on est 15 millions derrière ces produits, et on veut que tout le monde se rende compte que le bon sens, la bienveillance, c'est une donnée économique pour l'avenir.
Oui, alors je crois que c'est pas seulement la question de l'orgueil de l'expert, je crois que c'est aussi la question de la suprématie des institutions qui veulent une réponse uniformisée quasiment à l'échelle mondiale pour tout. On l'a vu pour le Covid, on le voit pour l'écologie, et Bruxelles n'est pas prêt de lâcher cette dimension impérialiste, en fait, c'est-à-dire que l'empirique, on voit bien d'ailleurs pendant le Covid, quand les municipalités avaient des idées pour permettre d'avoir accès à la cantine aux familles les plus pauvres, pauvres. C'était l'État jacobin, voire c'était Bruxelles qui disait non, non, il faut une réponse uniformisée. Et je crois que c'est un des gros problèmes de notre démocratie, c'est ce besoin d'avoir une réponse qui finalement finit par faire taire la société civile et confisquer les initiatives qui sont branchées sur l'empirique, donc qui sont plus intelligentes puisqu'elles sont en phase avec le réel.
Mais ça va encore plus loin, puisque ce matin-là, qu'est-ce qui se passe ? Les producteurs sont dans la rue, ils interpellent Bruxelles. Donc Bruxelles, pendant des années, demande des normes qualitatives extrêmes. Il y a aussi parfois de bonnes choses, mais on rend très dur le fait de devoir faire des produits d'une certaine manière. Et en même temps, on signe un accord, le Mercosur, qui autorise l'importation en concurrence directe pour tous nos producteurs, de produits qui ne tiennent pas compte de ces normes qu'ils ont mis des années à imposer aux producteurs français. Quand on arrive à cette forme d'injustice, déjà intellectuellement, et d'absurdité et d'ineptie, on perd la confiance des producteurs. Aujourd'hui, ils ont tendance à dire on ne sait plus.
Non, mais en plus, on les plonge, c'est pas fair play. On les plonge dans le désespoir.
Ouais, c'est le jour où tu as plus d'écoute, de reconnaissance minimum, et où tu ne comprends plus d'ailleurs pourquoi tu es dans cette situation. Quand on demande aux producteurs, ils disent mais on comprend pas. Vous parliez des enfants et d'école primaire. Moi, j'ai fait on a fait une présentation de ces qu'il patron dans une école. Et vraiment, j'ai dit à des enfants, c'était dur de leur faire comprendre l'importance des producteurs. Alors, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais je leur ai dit, mais imaginez un peuple qui viendrait comme ça d'une autre planète. Il débarque sur notre planète et il nous pose trois questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Manger. Bon, boire, manger, c'est important, sinon on ne vit pas. OK. Qui vous amène cette nourriture ? Vous la trouvez où ? C'est les producteurs, ça s'appelle des producteurs, des productrices qui nous amènent cette nourriture tous les jours. OK. L'idée suivante pour ce peuple qui ne nous connaîtrait pas, c'est de se dire, c'est la population que vous protégez le plus au monde. Et non, en France comme ailleurs, c'est une population qui est dans une fragilité extrême. Donc moi je reste confiant. Je pense que notre bon sens, qu'on doit agréger, additionner à notre capacité aussi économique, il n'y a pas un euro du monde économique qui ne sort pas de nos poches. Il n'y a pas un euro de ce grand monde économique autour de nous qui ne sort pas à un moment donné de la poche d'un citoyen. Donc si on se parle un peu, si on fait des marques, demain des entreprises solidaires, on doit pouvoir faire tourner ce gros bateau qui a tendance là à avancer sans pilote peut-être.
Le sujet, il y a beaucoup de sujets à aborder avec vous, Nicolas Chabanne, évidemment. Comment vous l'expliquez, vous, cette incompréhension entre les autorités, une partie des Français et les agriculteurs ? Parce que quand on demande aux Français ce que vous aimez vos agriculteurs, ce que vous disiez à l'instant, bah oui, ils les aiment, voilà, est-ce qu'ils les protègent ? Non, pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils regardent beaucoup le prix. C'était le début de l'émission, et c'est ce « je t'aime, moi non plus ». Comment vous l'expliquez, vous ?
Alors, pas tous, il y a une proportion qu'on a découverte. Oui, il y a 22 à 30% de familles qui ne peuvent pas, quand tu as du mal à nourrir ta famille, c'est compliqué d'imaginer ajouter quelques centimes. Ouais. Je vais vous faire rapidement, je les ai devant moi, pour qu'un ce lait devienne équitable pour le producteur, qui vit de son travail.
Il y a marqué 1,27€, voilà. 1,27€ prix conseillé voilà, pour
un litre
de lait.
Eh bien, il faut rajouter sur un litre de lait en France 8 centimes par litre. On boit à peu près 50 litres par an et par habitant. Ça veut dire que si je rajoute 4€ sur ma consommation de lait, je transforme la vie du producteur d'une galère à une vie normale. Sur cet Emmental, alors ça c'est nouveau, c'est un nouveau produit, j'ai demandé le calcul ce matin. Il manque 23 centimes sur un paquet d'Emmental, le fromage,
le sachet d'Emmental.
On en consomme 15 par an et en moyenne et par habitant. 3,43€. Qu'il n'y ait pas tout le monde qui puisse mettre 3,43€ par an, c'est une chose. Mais que les 70% qui peuvent le faire puissent le faire. Et aujourd'hui, dans les rayons, il y a trop peu de produits qui vous garantissent ça. Donc déjà, il faut un peu mathématiquement repositionner cette équation. Après, sur la question du désamour, nous, on a vécu des rendez-vous, alors je ne vais pas tomber dans... J'essaie de toujours... On a longtemps parlé que du positif, mais on a fait tellement de rendez-vous avec les ministères. Je me rappelle de rendez-vous à l'Élysée, j'en parlais ce matin avec un de vos confrères, mais 7 conseillers devant nous, à leur demande, on parle de cette aventure, ils regardent l'aventure, on est une coopérative, il y a une fondation actionnaire. Moi, par exemple, j'ai cédé toutes mes actions à une fondation actionnaire. Mes enfants ont signé pour se déshériter. Enfin, c'est la plus pure des aventures de conso. Il n'y a pas d'enjeu et d'enrichissement personnel. Donc, il n'y a plus qu'à développer puisque les producteurs en bénéficient. Eh bien, les 7 qui étaient devant moi, écoutez ça et ne donnez pas la moindre piste d'atterrissage à la possibilité de se dire OK, ils sont importants pour nous en France, on en fait une priorité. Dites-nous, les consommateurs, comment faire. Et un petit truc fou en complément. En 2017, la conseillère d'Emmanuel Macron vient nous voir et nous dit, Audrey Bourleau, on va en faire une loi. Bonne nouvelle. La loi Egalim, que vous connaissez tous. Elle est inspirée directement de ce qu'est le patron, on leur donne tous les tuyaux et les fils et les plans. Et quand elle sort, cette loi, elle a oublié la présence des consommateurs, qui est un élément fondateur. L'Egalim 2 oubliera aussi la présence des consommateurs. Donc il y a un moment où je ne sais pas comment expliquer. Hein. Moi, il me restait comme explication Kaiser Soze dans Usual Suspect, c'est-à-dire l'espèce de moment où il y a quelque chose qui bloque, mais on n'a même pas un nom à mettre. Enfin, moi, j'ai demandé à rencontrer au ministère, de façon très bienveillante, celui qui ne voulait pas de cette logique très simple. Il y a une culture par défaut de la solution, de la vraie vie, qui ne peut pas remonter dans des macro-schémas comme ça, où à la fin, oui, effectivement, la bureaucratie a peu d'amitié et d'affection pour les solutions de bon sens. Ça, on s'en rend compte depuis longtemps. Mais là où c'est triste, on change de ton, c'est que les producteurs, là, ils disparaissent et ils ont besoin d'aide.
Marie-Estelle Dupont, comment est-ce qu'on en est arrivé en France à ne pas chérir, à ne pas protéger nos agriculteurs? L'exemple fourni et raconté par Nicolas Chaban avec le peuple venu de l'espace est frappant. Comment est-ce qu'on on en est arrivé, oui, à ne pas les protéger, nos agriculteurs qui nous nourrissent, ce qui est vital?
Bon, non, ils disparaissent d'ailleurs. Je rebondis sur ce que vous dites, ils disparaissent de manière collective, ils disparaissent aussi beaucoup de manière individuelle. Hein. Les suicides d'agriculteurs et notamment de jeunes agriculteurs, enfin jeunes, relativement jeunes, qui reprennent par loyauté une exploitation familiale quand les parents meurent ou partent à la retraite et qui ne s'en sortent pas, sont quand même très importants. Enfin, le désespoir est immense. Comment on en est arrivé là? D'abord, je pense qu'il y a eu une disqualification. Paradoxalement, on a eu du mal en France à progresser sur le plan technique depuis la révolution industrielle et donc à valoriser les nouvelles professions et à se développer dans le secteur tertiaire sans qu'il y ait une sorte de reniement des origines et des racines, comme s'il fallait choisir, comme si c'était ou bien, alors que c'est une inclusion réciproque et que le développement du secteur tertiaire n'est possible que parce que quand même, fondamentalement, il continue d'y avoir des fonctions nourricières et des fonctions vitales dans le pays. Bon, je rappelle aussi que l'agriculture, la gastronomie, les vignerons sont une source indirecte de revenus par le tourisme qu'ils attirent et qu'on vient encore beaucoup en France pour l'art de vivre.
Et les paysages, ils entretiennent les paysages.
Et pour les paysages, bien sûr. Donc je pense qu'il y a ça, et puis je pense vraiment que la bureaucratie en France, de même qu'elle a détruit l'hôpital, détruit, étouffe, asphyxie, comme du lierre autour d'un tronc d'arbre, toutes les professions qui sont des professions essentielles parce qu'elles s'occupent de l'humain, parce qu'elles nourrissent, parce qu'elles soignent. Et c'est vrai pour l'hôpital, et c'est vrai pour l'agriculture. C'est vrai aussi d'ailleurs à l'école. En tout cas, les normes bureaucratiques sont totalement dissociées de la réalité. Elles s'en fichent en fait. Ça n'existe pas. Le réel n'existe pas pour le bureaucrate. C'est quelque chose de kafkaïen. Et le désespoir, il vient de cet univers kafkaïen. C'est-à-dire que eux qui sont façonnés, engagés, dévoués au réel, c'est des gens qui ne tiennent pas compte du réel, qui les gouvernent. Mais en fait, ça s'appelle l'effort pour rendre l'autre fou. Ils sont dans des injonctions paradoxales toute la journée.
Est-ce qu'on n'est pas également, Marie-Estelle Dupont, dans une société d'enfants gâtés? On a tout le temps, sans avoir à se demander d'où ça vient. C'est aussi pour ça qu'en réalité, on les a laissés tomber, nos agriculteurs.
Bah, je pense que la question de l'éducation, de savoir, d'être conscient de ce qu'on mange est très importante, oui. C'est-à-dire qu'expliquer à nos enfants quand on vit dans des grandes villes d'où ça vient et ce que ça demande, et emmener des petits Parisiens de temps en temps se balader à la campagne et regarder comment on fait pour traire une vache et comment on faisait il y a 100 ans et comment ça a évolué, ça rebranche sur le réel. Et en fait, je pense qu'on a tous fantasmé sur la mondialisation. Sauf que, en fait, la mondialisation nous a désincarnés. C'est-à-dire que maintenant, on prend son téléphone dans son lit à minuit, on fait 2 clics et le lendemain, on a le truc dont on a besoin sur le pas de la porte. Et donc, on escamote cette virtualisation, cette désincarnation de l'existence, escamote complètement déjà la notion de temps et la notion d'effort. Et c'est vrai que les paysans, les agriculteurs, ont un rapport au réel et au temps qui peut pas être abîmé, qui peut pas être virtualisé, qui peut pas être digitalisé, parce que finalement, eux, ils sont obligés d'être patients, ils sont obligés d'être persévérants, ils sont obligés d'être humbles, parce que quand il y a une récolte qui est foutue, elle est foutue, en fait. Il n'y a pas de plan B dans l'immédiat pour rattraper la situation. Donc, ils sont obligés de préserver des qualités et des vertus de pugnacité, de patience, d'humilité, que peut-être nous, qui sommes très gâtés en termes de confort, hein, mais pas forcément du coup en termes de spiritualité, n'avons plus. Donc ça doit passer par l'éducation.
On va écouter Marie-Estelle Dupont, Nicolas Chaban, qui est avec nous aujourd'hui, fondateur de C'est qui le patron. Vous l'avez compris, on parle de l'agriculture et plus des agriculteurs, que tout le monde s'accorde à dire qu'on aime beaucoup, voilà, mais il va falloir faut que ça se transforme en acte.
C'est vital, hein, pour eux,
c'est
et
vital,
pour nous.
Voilà,
et pour
c'est nous. Exactement, et notamment pour notre souveraineté, qui parfois est un gros mot, la souveraineté. On va en parler également avec vous, Marie-Estelle Dupont, dans la deuxième partie de l'émission. On va parler du courage, du devoir, du travail, de la valeur travail dans le monde agricole. 01 80 20 39 21 pour intervenir à l'antenne sur Europe 1. A tout de suite.
Marie-Estelle Dupont, Romain Desarbres.
15h, 16h sur Europe 1.
Et vous n'allez pas encore vos yeux.
Mais on est à la radio.
Bon, alors, vous n'allez pas encore vos oreilles.
Chez Poltron et Sofa, ce sont les super soldes en or, avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltron et Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Cerise nous dit pourquoi les pros peuvent compter sur Groupama.
Vous n'êtes pas sur le chantier, Arnaud ?
Oula, non, Cerise. Je viens de raccrocher avec un conseiller pour les sinistres de mon entreprise de plomberie. Et là, je dois en appeler un autre pour l'assurance scolaire de ma fille.
Ça en fait des appels pour être un bon père et un bon patron.
Ah ouais, je mélange tout. Je vais finir par prendre une assurance scolaire à un de mes employés si ça continue.
Rassurez-vous, Groupama est là. Votre conseiller unique gère vos contrats pro et perso avec une vision globale de votre situation.
Oh, ça va me changer la vie, Cerise.
Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupamapro.fr.
Leclerc, bonjour.
Vos pommes gala françaises, elles sont vraiment...
délicieuses, pas chères.
Oui, mais surtout, vraiment...
ah, vraiment craquantes. Et du 20 au 24 janvier, les pommes gala françaises de verger éco-responsables sont à 1,29€ le kilo. Et il y a 10% de tickets Leclerc en plus sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 170-200 grammes, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Bureau Vallée ?
Ah non, non, me mets pas de repos mardi, hein.
Ah bon ?
On reçoit la nouvelle imprimante Epson à réservoir de chez Bureau Vallée. Je vais être la première à la tester, hein.
Oui, enfin, elle sera toujours là mercredi.
La première, j'ai dit.
L'imprimante multifonction jet d'encre Epson EcoTank. 29,50. 3 en 1, impression recto-verso auto est à seulement 289,99€.
Professionnel, démarrez l'année du bon pied avec Bureau Vallée.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Jusqu'au 24 janvier. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr.
15h26 sur Europe 1, on est ensemble. Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont sur Europe 1, on parle des agriculteurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron ? Voilà, 01 80 20 39 21, si vous voulez témoigner sur Europe 1, si vous êtes vous-même agriculteur, si votre famille est issue de l'agriculture, vous appelez Europe 1 01 80 20 39 21. À tout de suite.
Les mandarines ? Il y a toujours quelqu'un pour te piquer un quartier. Eh bien, ça me donne envie de vous dire que les mandarines avec feuilles sont à 1,99€ le kilo. Alors rendez-vous jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur votre appli Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Espagne, variété Tangold et Nadercote, catégorie 1, calibre 2-3, détail sur carrefour.fr.
Préparez-vous à voir toujours plus de matchs, toujours plus de buts incroyables, toujours plus de clubs réunis pour un même frisson. Avec Canal+, préparez-vous à vivre toujours plus d'Europe. Retrouvez l'intégralité de l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal+. Avec ce soir à 21h, Sporting Portugal Paris SG sur Canal+ Foot et Real Madrid AS Monaco sur Canal+ Sport. Suivi demain à 21h d'Olympique de Marseille Liverpool sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Dans la vie, vous pouvez choisir d'avoir des enfants, leur faire faire leurs premiers pas, les accompagner jour après jour. Tout ça pour qu'ils finissent par se jeter en boule en hurlant au milieu du supermarché.
Ou bien sinon, vous pouvez choisir une Volkswagen qui fera exactement ce que vous lui demandez.
Volkswagen ? Enfin, une décision facile à prendre. En ce moment, le T-Cross est à partir de 179€ par mois.
T-Cross 9 LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 179 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 janvier dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Alors pour nous, ce sera une assiette frites mayo, une assiette frites ketchup.
Supplément promo !
Vous parlez de la promo McCain ?
Bah oui, je passe commande, comme au resto.
Bonne idée, mais il faudra tout de même venir chez Leclerc. Du 20 au 31 janvier pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de deux sachets de frites surgelées côté resto, côté burger, comptoir ou brasserie McCain, le troisième est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Joyeux anniversaire !
On l'a déjà fêté hier.
Oui, mais chez Caseo, l'anniversaire dure 4 jours.
4 jours, 4 cadeaux. Fenêtres, cuisine, dressing et pergola.
Carrément. Pour les travaux et la réno, il y a Caseo.
Caseo, vos projets bien encadrés. Menuiserie, cuisine, véranda. Les 4 jours anniversaire Caseo, c'est jusqu'à moins 40% sur votre projet. Conditions et dates sur caseo.fr.
Aesio Mutuelle présente. Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, hein. Elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ? Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentiel, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuelle, c'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 15h30, pile, Émilie Dez pour le journal permanent.
Il ne faut pas se laisser impressionner. Le message d'Emmanuel Macron depuis le Forum économique de Davos en Suisse. Le président français accuse les États-Unis de chercher à affaiblir l'Europe. Donald Trump a d'abord menacé d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays européens qui s'opposaient à l'annexion américaine du Groenland. Il a de nouveau menacé d'imposer aujourd'hui une surtaxe de 200% sur les vins et les champagnes français après le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son conseil de paix. Donald Trump est en train de détruire une partie de l'économie mondiale pour régner, assure le secrétaire général de la FNSEA sur Europe 1. Le président du RN, Jordan Bardella, appelle à mettre en œuvre sans délai le mécanisme anti-coercition contre les États-Unis, un outil qui permet de limiter les importations d'un pays et ses accès à certains marchés publics. Jusqu'à 1000 tracteurs sont entrés à Strasbourg, des centaines d'agriculteurs français, italiens ou belges venus mettre la pression sur les députés européens pour retarder l'entrée en vigueur de l'accord du Mercosur. Les députés doivent voter demain une éventuelle saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Sébastien Lecornu va actionner cet après-midi le 49-3 pour faire passer le budget 2026 en force, le premier d'une série de trois qui devrait permettre la promulgation du texte avant la mi-février, sauf censure. Le RN et LFI ont déposé 2 motions, le PS ne devrait pas les voter. Le Sénat examine aujourd'hui le projet de loi sur la fin de vie. Le texte a été remanié en commission. Il prévoit des conditions d'accès plus strictes au suicide assisté. Un vote est prévu le 28 janvier. La famille de la lycéenne qui s'est donnée la mort il y a une semaine en Seine-et-Marne a porté plainte. Elle sera prochainement entendue. 2 enquêtes ont été ouvertes, dont l'une pour harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider. L'Espagne observe un deuil national de 3 jours après la collision qui a fait au moins 41 morts dans le sud du pays. Le bilan s'est alourdi. 39 personnes, dont 4 enfants, sont toujours hospitalisées. Le Premier ministre a promis une transparence absolue sur les causes de la catastrophe. Et puis les gérants du bar de Cran Montana, incendié la nuit du Nouvel An, sont de nouveau entendus par la justice. Le couple accusé notamment d'homicide par négligence. L'incendie de leur bar la nuit du Nouvel An a fait 40 morts et 116 blessés.
Merci beaucoup Émilie Dez. On vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Marie-Estelle Dupont.
15h-16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Voilà, Émilie Dez nous en parlait à l'instant. Mobilisation des agriculteurs aujourd'hui à Strasbourg. 1000 tracteurs réunis à Strasbourg. Le monde agricole en colère, une colère qui ne retombe pas. On parle de l'agriculture, on parle des agriculteurs aujourd'hui et du monde rural. Dans ici, on en parlait avec vous, Marie-Estelle Dupont. On est avec Nicolas Chaban aujourd'hui, qui est le fondateur de C'est qui le patron. Et on est également avec Arnaud, Marie-Estelle Dupont, qui nous a appelé 60 ans. Vous nous avez appelé de Paris. Bonjour Arnaud.
Bonjour, merci.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous dites ceux qui nous nourrissent se suicident car nous ne sommes pas capables d'avoir un système équitable. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors d'abord, je félicite Marie-Estelle Dupont, qui a toujours des analyses excellentes. Et puis, là, elle essaie d'appliquer sa méthode, comme toujours, et de manière satisfaisante, au problème des agriculteurs que pose Nicolas Chaban. Bon, donc la situation est très simple. D'un côté, il y a un constat d'absurdistan, qui est fait dans tout un ensemble de domaines. D'autre part, il y a quelqu'un qui propose la solution, Nicolas Chaban, et qui dit que la solution de bon sens existe. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, appelons ça le gouvernement, les responsables, n'acceptent pas, n'écoutent pas le bon sens et la solution. Pourquoi? Eh bien, la solution, elle est simple. Il y a un maillon manquant dans notre système qu'on peut appeler démocratique, c'est que ça ne fonctionne ni à l'école, ni en médecine, ni nulle part, et là, pas dans l'agriculture. Le langage est truqué. Et celui qui a bien dénoncé la chose, c'est Philippe Guillaume, qui était PDG d'Antenne 2 FR3, qui en 1990 avait écrit un livre, Lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent pas être pris que pour des cons. Et ce qui était dit, c'est qu'il faut détruquer le langage. Et Marie-Estelle Dupont a dit une chose intéressante qui illustre la question, c'est qu'elle a dit, dans notre système démocratique, il y a un système démocratique, mais qui n'écoute pas la société civile. Or, la véritable démocratie, c'est la société civile. Donc, le problème qu'elle soulève très souvent, c'est qu'en fait, nous sommes pris dans un système qui veut une solution uniforme, c'est ce qu'elle a dit, et ça s'appelle les mathématiques. C'est-à-dire, ceux qui dominent tout, c'est les mathématiques, ils veulent tout diriger par les mathématiques. Or, comme il y a trois logiques, la logique spirituelle, la logique biologique et la logique minérale qui est mathématique, eh bien, les paysans ne rentrent pas dans ce jeu et nous sommes en train d'en mourir. Donc, la solution, c'est qu'il manque, il y a un dysfonctionnement du système décisionnel qui fait que ceux qui ont la solution ne sont pas entendus, alors que la démocratie, en principe, a été faite pour entendre, eh bien, ceux qui ont la solution. Voilà. Donc, il faut remettre le langage à l'endroit. Et c'est ce qui se passe à l'Académie qui a abandonné les règles certaines, c'est que la langue française est une langue merveilleuse qui permet de donner la solution par les règles certaines. Et la langue française va mal, et ça va avec ce système qui n'admet pas, et à ce que Macron avait appelé une fois, l'agenda caché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un agenda caché, et puis il y a ceux qui sont sur le terrain qui en appellent à la démocratie, mais la démocratie n'existe pas dans la mesure où il y a cet agenda caché. Voilà, donc la solution, c'est qu'il faut détruquer le langage et ne pas croire, ne pas faire appel à des décideurs en disant qu'ils ont le droit de décider, puisque celui qui a le droit de décider, c'est celui qui a la légitimité de la solution. Donc j'allais dire que ce sont ceux qui ont la solution qui doivent, entre guillemets, au moins prendre le pouvoir dans le langage et ne plus admettre comme responsables ceux qui ne veulent pas apporter la solution. Et c'est vraiment ce scandale absolu des paysans qui se suicident. Et voilà, donc c'est détruquer le langage, c'est la solution. Il y a l'absurdistan, nous avons les solutions et nous devons les imposer en remettant le langage vrai qui fait que le pouvoir est illégitime dans la mesure où ce n'est pas lui qui apporte la solution. Voilà, voilà ce que j'avais à dire.
Merci, merci Arnaud. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Chaban? Moi, je pense que ça soulève surtout la question de la souveraineté, non?
Oui, alors c'est vrai que là, on a parlé quand même d'un constat triste, aberrant. On ne trouve pas l'interlocuteur pour au moins avoir une réponse. Vous vous rendez compte, on en est là quand on est producteur, quand on est consommateur, citoyen. Mais là, il y a un autre choix qui est en train de se faire. Hein. Il faut être concret là-dessus. C'est-à-dire que on est repassé par là pour montrer l'absurdité de la situation, mais là, on n'attend désormais plus personne en tant que citoyen. En ayant découvert la capacité qu'on a sans attendre personne, sans le moindre rendez-vous avec l'un ou l'autre des dirigeants dont on parle, d'avancer, on prend encore une fois le moteur principal de l'ensemble de notre vie économique et politique. Hein. Le monde économique, c'est le grand frère de la vie politique. Là, on a le pouvoir d'achat, notre argent dans nos poches. Si à un moment donné, imaginez un monde où notre argent irait mécaniquement avoir des conséquences positives sur des choses qu'on aurait pu identifier, mécaniquement, on va changer le monde. On change beaucoup plus facilement le monde qui nous entoure à partir de nos actes d'achat qu'en espérant qu'un membre du système politique le fasse. Donc, la nouveauté, on a effectivement fait cette demande de convention citoyenne. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'outils démocratiques, il n'est pas parfait, parfois ça ne marche pas, c'est fumeux, mais là on va tout faire pour que ça fonctionne. Et on va rappeler à tout le monde que sans nous, les consommateurs, les citoyens, rien n'existe. Mais il faut le faire, je crois, dans une autre dimension que celle qu'on a connue il y a longtemps, parce que là on est sur le terrain et en face des armes de gens qui ne répondent pas. Si vous le faites en hurlant dans la rue, en vous énervant toutes les deux minutes, et en vous exténuant d'arguments toujours les mêmes face à des gens qui n'écoutent pas, finalement, vous n'êtes pas sur le terrain le plus tranquille. Si vous vous rendez compte que vous avez un pouvoir immense, que vous repassez par une case un peu positive, que vous éclairez la zone de lumière au lieu de s'occuper de la zone un peu noire pour qu'elle irradie la pièce tout entière, on l'a fait en 10 ans, on n'a attendu personne, on n'a pas eu besoin des politiques pour créer aujourd'hui une marque qui sauve déjà des milliers de familles de producteurs. Donc repassons aussi par cette case action, action à partir de nos moyens de citoyens et de consommateurs.
C'est-à-dire là où je mets mon argent, je mets mon consentement et je mets mon énergie.
Oui, avec une nouveauté. Vous vous rendez compte que, pour faire une autre image, 1600 milliards d'euros des dépenses de ménage chaque année. 1600 milliards. Le 1er janvier, il n'y a pas un euro qui ne sort pas de nos poches. Hein. L'argent ne vient pas d'une planète lointaine. Le 1er janvier, nous citoyens, avec un pot commun de bienveillance et d'envie de faire des choses utiles, on est tous sur la ligne de départ et on espère que la vie ira mieux. Le 2 janvier, comme on butine et qu'on ne sait pas où va cet argent et quelles conséquences il a dans ce monde un peu déséquilibré, on arrive à ce monde-là. Imaginez une année où, et nous on l'a enclenché l'année dernière, on appelle ça les entreprises du partage, on est en train avec cet argent de racheter une part de l'économie, de prendre des entreprises où on met la fondation actionnaire, on sait où va l'argent et où on met des petits branchements où mécaniquement, derrière un achat de services ou de produits, on sait que mécaniquement nos achats soignent le monde. C'est le chemin le plus court, sans attendre personne pour changer les choses. Voilà pourquoi, au milieu de ce marasme et de cette tristesse des producteurs, on a une petite lumière là qui s'est allumée et on va marcher de plus en plus nombreux sur ce chemin-là. On est 15 millions de personnes, c'est déjà un nombre suffisant pour changer les choses.
Oui, alors c'est drôle parce que je vous écoute et je me laisse aller à une pensée à des choses et je me dis ça passe aussi par notre rôle d'éducation, c'est-à-dire que je suis très frappée de voir ce paradoxe dans notre société où on nous parle d'autonomie, d'indépendance à tout craint, faut être autonome, ton enfant est-ce qu'il est autonome? Ah, ben non, en fait il a 2 ans donc il n'est pas autonome, etc. Et en réalité... beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons d'une vingtaine d'années ne sont pas conscients de ce qu'ils mangent. Et moi, j'ai vu des étudiants babysitters garder mes enfants, soi-disant HP, soi-disant entrant dans des grandes voies d'études, qui ne faisaient pas... Non mais en fait, j'en suis restée bouche bée, qui ne connaissaient pas la différence entre un légume et un féculent, Nicolas Chaban.
Ouais,
à 20
sûr,
ans,
oui.
Et on m'explique, il est HP, elle est HP, elle va faire des grandes études. Bah, d'accord, mais en attendant, elle va manger des boîtes de nouilles chauffées au micro-ondes, quoi. Non, mais enfin, je sais pas, moi, à 20 ans, je savais préparer une ratatouille, et enfin, je savais manger de saison et préparer à manger pour mes proches, quoi. Et donc, il y a une question de la transmission collective, mais une transmission dans la famille, de qui incluez vos enfants quand vous préparez à manger, ça c'est quoi, et qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, et tiens, elle est bonne cette huile d'olive, goûte-la, et je pense que ça passe aussi par cette éducation au quotidien, non, d'être conscient. Enfin, moi, quand je vois un jeune de 20 ans qui fait pas la différence entre les légumes et les féculents, en fait, je n'ai plus de mots.
Ouais, on a perdu, vous le résumez bien, la notion, déjà aussi d'intérêt, hein, parlons de toutes ces maladies qui, lorsqu'il y a autant de malbouffe, présente une note derrière les économies de premier niveau bien plus grande que les économies qu'on aura pu faire. Enfin, c'est un tout. Mais je crois que la nouveauté, c'est qu'on s'est laissé comme ça un peu faire par un système qui nous donnait l'impression qu'il n'y avait pas de risque particulier au niveau de notre nourriture. Là, je crois que tout va être remis en question et on repassera par cette culture-là. Je vous disais tout à l'heure, là, pendant la pub, que la nourriture faite à nos portes, qui vient dans nos assiettes chaque jour, elle disparaît avec les producteurs qui disparaissent et aussi mettent fin à leur jour. Qui va nous nourrir si on doit parier sur de la nourriture qui vient du bout du monde, qui sera forcément aléatoire? Donc je pense qu'il va y avoir un immense réveil.
Non, mais surtout qui sera insipide, hein, parce que, enfin, pardon, mais le fruit qui est à moitié congelé, qui a été dans des containers, etc., il n'est pas bon, quoi. Quand vous allez manger local, vous vous régalez, ça explose.
Et
ça explose dans les saveurs.
Et je ne vous parle pas aussi de l'empreinte carbone. Enfin, il n'y a aucun intérêt à remettre notre destin. On parle de nourriture, hein, on ne parle pas d'un loisir. Nous nourrir tous les jours. Dans cette période un peu malheureusement guerrière, ils le savent bien, hein, les dirigeants un peu moins humanistes qu'on peut l'être en tant que citoyen, ils savent que celui qui tient la nourriture a gagné la guerre. Et aujourd'hui, on a en France, alors on va relever la tête 2 minutes, les producteurs disparaissent, ils demandent juste à gagner leur vie. Hein. Ils sont en train d'arrêter leur métier, les enfants ne reprennent pas. Ils font de la nourriture pour nous tous, et on est en train de regarder un petit peu ailleurs, alors qu'on devrait être à 100% sur cette priorité. Je répète qu'il y a beaucoup de priorités de choses à changer, c'est une chose. Mais il n'y a pas une plus grande priorité que de sanctuariser la nourriture faite près de chez nous. Si un jour on a des problèmes pour nous nourrir, on le voit avec les œufs aujourd'hui, même si les raisons sont un peu différentes, il faut imaginer demain, si on cherche de la nourriture, à quel point tous les autres problèmes seront bien plus grands. Il faut vraiment qu'on ouvre nos yeux. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a une solution. L'argent est dans nos poches. On va se rassembler plus encore qu'on le fait. Et on va dire à tout le monde, là, l'ensemble du système agroalimentaire, les patrons, c'est nous. On va le dire avec un sourire, beaucoup de bienveillance. Maintenant, vous allez faire comme on va vous dire de faire. Parce que sinon, vous allez, par défaut, faire un monde qui ne sera pas durable pour nous tous.
Sur la question de la souveraineté.
D'ailleurs, Pompidou disait il y a 50 ans, dans 50 ans, le vrai luxe, ce sera d'avoir des poules et un petit terrain.
Hein. Ouais, absolument.
C'est-à-dire qu'il avait bien compris que la mondialisation allait, à un moment donné, nous faire perdre une autonomie, justement. Mais au nom de la liberté, allait nous faire perdre l'autonomie.
Aujourd'hui, mes copains agriculteurs, moi je suis du Sud, me disent qu'ils se font piller les champs. Parce que ça devient dur de se nourrir. Enfin, c'est un élément tellement clé. Moi, je ne comprends pas qu'un lundi matin, là où c'est le plus étonnant, c'est que ça serait une mesure pour le gouvernement qui le ferait tellement populaire. Le premier gouvernement qui dit, écoutez, on va protéger les producteurs et la nourriture qui nous amène tous les jours. On est tous d'accord, on y met les moyens qu'il faut. Déjà, on part de là. Et ensuite, quand on aura sécurisé cette nourriture, on pourra s'occuper du reste. Mais comment se fait-il, alors qu'on est 90% à être d'accord avec cette protection, que rien ne se fasse de durable? On a fait au bureau la liste des demandes des producteurs, je l'ai fait avec l'aide des producteurs, et en face, ce qui a été amené comme solution. Je n'arrive pas à comprendre, parce que dans ces cas-là, il y a bien quelqu'un qui devrait être gagnant à nous mettre dans cette situation collective. C'est rare quand on dramatise un peu, parce qu'on est plutôt dans le positif, mais je pense qu'il faut repasser par là pour se mettre un petit coup de pied aux fesses collectif et surtout très vite s'accrocher à la bonne nouvelle du fait que c'est nous qui tenons le volant de cette consommation par nos actes d'achat. Si à un moment donné on décide d'acheter différemment, le monde bouge.
On est en direct avec Monique. Monique qui nous appelle de l'Allier, département agricole.
Bonjour Monique. Bonjour et merci beaucoup de prendre mon appel. Déjà merci aux intervenants et à Marie-Estelle pour la qualité de cette émission. Voilà, moi je suis femme d'agriculteur et mère d'agriculteur. Et voilà, je voudrais quand même témoigner sur ce métier qui est quand même magnifique. Même s'il est dur, c'est vrai qu'on a, on peut pas parler de vacances, on n'a pas les 5 semaines de vacances. Ceci dit, quand on est passionné, Marie qui était passionnée par l'agriculture et qui a transmis sa passion, et du coup j'ai 2 fils qui ont repris l'exploitation, qui est en polyculture élevage. Et je disais à la personne que j'avais eue que je trouvais que c'était un des rares métiers où les enfants pouvaient vivre le métier de leurs parents en direct. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et que c'est, voilà, ils peuvent participer, s'ils le souhaitent, très jeunes, au métier de leurs parents. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et j'espère que ça va continuer, que ce métier va pouvoir continuer à perdurer et dans des bonnes conditions parce qu'effectivement, maintenant, on gagne plus d'argent à faire du bureau que d'être sur le terrain et c'est quand même très triste. Voilà.
Oui, mais justement, cette transmission et cet héritage transgénérationnel où on apprend aussi les savoir-faire et comme vous le dites, c'est très beau. Malheureusement, pour les générations actuelles, c'est en train de devenir un fardeau, en fait. On voit la loyauté qui les relie pour certains à l'exploitation, qui ne peuvent pas abandonner, qui ne veulent pas vendre. Et ça les met dans des situations de tension extrême à peine pouvoir nourrir une famille où il n'y a qu'un seul enfant, quoi, eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment profondément révoltant.
Ben oui.
Qu'est-ce qu'ils en disent, vos enfants, vos fils ?
Alors moi, mes fils, en fait, pour toute la partie céréales, ils sont en groupement d'agriculteurs, donc ils ont du matériel en commun. On a la chance d'avoir des jeunes, ils ont 40 et 35 ans, et ils ont quand même deux autres jeunes qui sont installés dans un rayon de 5 km et ils achètent du matériel en commun, ce qui permet, et ils font les gros travaux en commun, ce qui permet de se remonter le moral quand il y en a un qui flanche. Et c'est très... Voilà. Le problème de l'agriculture, souvent, c'est que les gens sont dans leur coin tout seuls, quoi, je pense. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est souvent ça. Et on n'ose pas parler. Et pourtant, il y a plein de structures qui existent pour mutualiser un peu les travaux. Mais c'est quand même souvent des gens qui aiment leur indépendance, je pense.
Ouais. Et dans votre cas, Monique, vos deux enfants parlent entre eux, s'épaulent ?
Alors oui, en fait, ils ont chacun leur domaine de prédilection, j'allais dire. Il y en a un qui est plus axé sur l'élevage et l'autre sur les céréales et toute la partie comptable. Mm-hmm. Voilà, et c'est deux caractères différents, mais qui se complètent. Après, je ne vous dis pas que c'est sans difficulté. Hein,
oui.
Mais je pense que c'est quand même une des solutions. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'un comme l'autre ne voulait pas faire de l'agriculture, de reprendre une exploitation tout seul. C'est quand même très lourd pour les familles que ce soit pour les week-ends, ils peuvent se interchanger. C'est ce qui est quand même c'est plus facile à l'heure actuelle.
Ils peuvent instaurer des tours de garde, entre guillemets.
Voilà. Et d'accord. C'est vrai que nous, on était tout seuls. On n'en a pas souffert, mais l'évolution fait que maintenant, les femmes travaillent à l'extérieur et que, voilà, on n'a pas le même style de vie pour les jeunes actuels que pour nous. On ne vit pas tout à fait de la même manière. Mais ceci dit, je pense qu'on peut encore vivre de ce métier à condition d'être d'être raisonnable et d'avoir quand même une structure suffisamment... une structure qui permet quand même de pouvoir tirer profit de ce métier. Ce n'est pas le tout de travailler comme des dingues et pas gagner un centime. Ce n'est pas logique.
Raisonnable et inventif. Ils ont été inventifs, voilà. Visiblement. Ils Exactement. Ont fait preuve de flexibilité mentale.
Voilà. Et puis, effectivement, nous, on avait eu des périodes plus compliquées où on a changé un peu nos systèmes de production. Enfin, voilà, il faut aussi... c'est sûr qu'on prend des risques. Dans ce métier, on prend des risques financiers et on est quand même vite... sollicité par des intégrateurs, et ça il faut se méfier, quoi, parce que c'est pas eux qui vont perdre de l'argent, quoi. Je trouve qu'il faut avoir la tête sur les épaules, quoi, dans ce métier.
Qu'est-ce qu'ils disent de ce qui est en train de se passer, votre mari et vos fils, et puis vous, ils expriment quoi comme besoin par rapport au Mercosur notamment? Ils disent ils auraient besoin de clauses de sauvegarde, ils auraient besoin quoi, de renégocier des choses, ils auraient besoin d'un miroir réglementaire pour aligner les mesures en fonction des pays, ils auraient besoin de quoi?
Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est que en fait au sein de l'Europe. On n'exige pas la même chose, on n'a pas les mêmes normes. Et ça, c'est grave, je trouve, parce que du coup, sans parler du Mercosur, mais rien que déjà en Europe, il y a des produits qu'on nous interdit ici, qui sont permis dans d'autres pays d'Europe, et c'est pas normal, parce qu'il faudrait quand même déjà qu'on soit un petit peu plus sur la même longueur d'onde. Au moins, on serait plus fort, je pense.
Après, c'est-à-dire, en fait, soit on aligne tout, soit on n'aligne rien.
Voilà, exactement. Et puis, on ne dit pas une fois, on va permettre, on vous interdit tout le glyphosate, et puis deux ans après, on vous dit, finalement, on va le laisser. Vous voyez, c'est quand même très... pernicieux. Et puis en fait, le problème de l'agriculture, c'est qu'il y a tellement de problèmes différents selon selon les activités agricoles qu'on a, c'est difficile déjà d'uniformiser l'agriculture en France déjà, entre les maraîchers, les producteurs de bovins, les moutonniers, il y a beaucoup les éleveurs laitiers. On n'a pas forcément tous les mêmes problèmes, quoi. Vous voyez ?
Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Nicolas, à Monique ?
Oui, je retrouve tellement des témoignages, évidemment, que nous, on a depuis 10 ans. C'est fou pour nous aussi, consommateurs. Ce n'est pas un problème simplement des producteurs avec l'Europe. Quand vous avez de la nourriture qui vient du bout du monde, avec des produits, des intrants interdits en France, pour des bonnes raisons, qui peuvent, par tolérance, arriver jusque dans nos assiettes. Il faut vraiment se rendre compte de l'absurdité. Après, il faut parler de la fragilité immense. Et c'est bien que vous parliez de vos fils, parce que sans génération future, il n'y aura pas d'agriculture. Et donc, il faut absolument qu'ils aient des bonnes conditions pour s'installer. Quand ça fait la 4e génération que tu rencontres un problème, que tu as toute la pression de toutes ces générations avant toi, c'est comme ça qu'il y a souvent des drames. C'est le poids de toute une famille, comme vous le disiez, Marie-Estelle. Mais j'ai une jolie histoire pour donner un peu d'espoir et montrer aussi aux autres consommateurs que ça a du sens d'acheter français et solidaire. Quand Martial Darbon, qui a créé la Brique de lait, c'est qui le patron dans l'Ain, le producteur de lait, il a cédé son exploitation. Il y a un petit jeune qui a récupéré l'exploitation. Il rêvait de continuer ce métier, il a pu le faire. Et son frère, qui avait été obligé de partir pour aller faire infirmier parce qu'il ne s'en sortait pas, a pu être rappelé. Et les voilà tous les deux dans la maison, en train de faire le métier de leur père et de leur grand-père. Donc vous n'imaginez pas, quand vous achetez français et solidaire, à quel point vous permettez d'écrire des histoires non seulement belles, mais légitimes et justes.
Et à quel point vous vous protégez vous-même aussi, en fait.
Ouais, et à quel point, vous avez raison de dire ça. Moi, je pense que les producteurs, les agriculteurs en France vont gagner la partie, pas tout seuls, hein. Ils vont la gagner avec nous, les consommateurs.
Ouais, mais je crois qu'il y a vraiment une notion d'éducation, parce que quand on voit des gens qui, pour manger bio, font venir du chinois ou du pas de saison, alors qu'à côté, à 30 km de chez eux, il y a une ferme qui fait du super bon fromage, et oui, c'est pas bio, mais en fait, c'est local, de saison, et c'est fait de manière raisonnable et raisonnée. C'est dommage.
Ouais, mais c'est pour ça. Ça, c'est le fameux bio du bout du monde. Il vaut mieux manger du local, fait dans les règles de l'art, que du bio du bout du monde. Mais c'est pour ça. Merci, pardon, j'y reviens. Hein, on dirait que... merci pour cette passe décisive, comme on dit. Mais pour qu'on y arrive, pour qu'à un moment donné, nous, consommateurs, on ait ces informations, parce que l'éducation, elle passe quand même par la transmission d'informations, eh bien, d'une information juste. Il faut qu'on sache tout. C'est pour ça qu'il y a un seul vecteur possible pour la suite, c'est la transparence. Où va notre argent, à quoi il sert? Dites-nous ce qu'il y a derrière notre alimentation. Il faut qu'on puisse juger, il faut qu'on puisse aider un producteur qui fait bien les choses. C'est très important qu'on ait cette transparence, parce qu'elle va remettre notre bon sens, je dirais, en pilote de notre consommation.
Merci beaucoup.
Nicolas Chaban, c'était un bonheur de vous retrouver à l'antenne d'Europe 1.
Voilà, merci également à Monique. On a entendu Arnaud, il y a Mathilde et Jean-Marc qui nous ont appelés. Jean-Marc des Pays de la Loire et Mathilde de Dordogne, voilà. Mais on n'a pas eu le temps de vous entendre. Les annonces Europe 1, tous les jours dès 5h du matin, vous avez rendez-vous avec Alexandre Lemaire et toute la rédaction d'Europe 1 pour Europe 1 Bonjour, le premier tour complet de l'actualité. La météo, la revue de presse internationale, les pronostics hippique, les prescriptions culture de la rédaction Europe 1 Bonjour de 5h à 7h tous les jours sur Europe 1, la radio libre. Il est 15h57. Marie-Estelle Dupont se retrouve demain dès 15h.
Absolument, et on va parler d'un tout autre sujet, la solitude.
La solitude au menu de l'émission. Ici, on en parlait avec vous, Marie-Estelle Dupont, demain sur Europe 1. Dans un instant, Pascal Praud et vous sur Europe 1.
Ouais. Si mes comptes sont bons, le 23 janvier, ça sera votre 500e de Culture Média.
500e? Ah oui, ça se fête, ça, Anissa.
Ben oui, il faut faire une grande fête, une grande émission avec du public.
Et puis avec plein d'amis d'Europe 1 et de Culture Média, Jean-Pierre Foucault, Cyril Ferraud, Isabelle Iturburu, Barbara Pravi, Pascal Obispo, Bérangère Krief, que des gens sympas, quoi.
Culture Média,
la 500e de Thomas Hill sur Europe 1.
On confirme la date ?
Le 23 janvier, en direct, de 10h à 11h30 sur Europe 1.
Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés. Et parce que nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, chaque euro est réinvesti pour améliorer la santé de tous.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le Code de la Mutualité.
Et vous, vous n'allez pas encore vos yeux?
Mais on est à la radio.
Bon, alors, vous n'allez pas encore vos oreilles.
Chez Poltron et Sofa, ce sont les super soldes en or, avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltron et Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Europe 1.
Coucou les amis, vous avez l'air en forme.
Incroyable, franchement, c'est magique.
C'est incroyable, en plus c'est une sacrée équipe. Hein.
C'est vraiment plus qu'agréable, on peut pas faire mieux là. Merci à votre équipe. Et merci Europe 1.
Europe 1, la radio libre.
Leclerc, bonjour.
Vos pommes gala françaises, elles sont vraiment...
délicieuses, pas chères?
Oui, mais surtout vraiment...
ah, vraiment craquantes. Et du 20 au 24 janvier, les pommes gala françaises de verger éco-responsables sont à 1,29€ le kilo. Et il y a 10% de tickets Leclerc en plus sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 170-200 grammes.